Confrères et bien chers amis, juste quelques mots de bienvenue à tous, à la famille, pour cette deuxième session d'études qui avait été organisée pour la première fois l'année dernière par M. l'abbé Roscoe. Nous avions eu l'intention cette année de ne faire une réunion des prêtres du district. Et puis finalement, nous avons maintenu la session d'études aussi pour les laïcs. Et nous sommes heureux donc de nous retrouver. Tous les prêtres du district du Canada vont être là ensemble dès ce soir avec l'arrivée de M. l'abbé Dolan. Et de pouvoir, par ces conférences aussi, donner l'instruction et de la bonne doctrine à tous nos fidèles qui en profiteront par la même occasion. Je voudrais faire cette présentation des différents sujets à l'aide de quelques passages d'enseignements pontificaux. Tout d'abord, je commencerai par notre saint patron, saint Pilis, qui nous dit dans son encyclique adressée aux prêtres errants animaux, « Nous avons à cœur aussi de recommander aux prêtres d'établir entre eux, ainsi qu'il convient à des frères, une union plus étroite avec l'approbation et sous la direction de l'autorité épiscopale. » Et il donne quelques exemples de l'intérêt qu'il y a pour les prêtres de se regrouper en ce genre d'association. Mais il importe bien davantage de s'associer en vue du développement de la science sacrée et surtout dans le but de s'appliquer avec une ferveur plus grande aux devoirs de leur sainte vocation et de mieux travailler au salut des âmes en mettant en commun leurs idées et leurs efforts. Bien, je pense que cette session d'études répond parfaitement à cette adresse et invitation de Saint Pédis de regrouper ensemble nos idées et nos efforts pour le bien des âmes et pour la sainteté de notre vocation sacerdotale pour cette étude de la science sacrée. Je continuerai avec un passage de l'encyclique Ad Catholici Sacerdotii du pape Pie XI sur l'importance de l'étude et de la science pour le prêtre. Mais la figure du prêtre catholique que nous voulons mettre en lumière au regard du monde entier serait incomplète si nous omettions de faire mention d'une autre qualité très importante que l'Église exige de lui, la science. Le prêtre catholique est constitué maître en Israël, ayant reçu de Jésus le devoir et la mission d'enseigner la vérité, enseigner toutes les nations. Il doit enseigner la doctrine du salut et de cet enseignement, comme l'en avertit l'apôtre des gentils, il est redevable aux sages et aux ignorants. Alors, cet enseignement de la doctrine, voyez-vous, qui s'adresse d'abord aux sages, mais aussi aux ignorants, elle nous sera présentée par M. l'abbé Rousseau dès demain matin, qui va nous parler de l'éducation selon les principes de Don Bosco, parce que l'enseignement de la science s'adresse d'abord et avant tout aux petits-enfants, qui sont, comme dit la philosophie, l'intelligence est une tabula rasa et il faut toute la former, la science de Dieu et les sciences des réalités que le bon Dieu a créées dans l'univers, dans toutes les beautés de la création. Mais comment le prêtre pourrait-il l'enseigner s'il ne la possède pas? Les lèvres du prêtre sont les gardiens de la science et c'est de sa bouche qu'on demande l'enseignement, dit le Saint-Esprit dans Malachie. Et personne ne pourrait, pour recommander la science sacerdotale, prononcer une parole plus grave que celle de la sagesse divine elle-même, dit un jour par la bouche d'Osée, « Parce que tu as rejeté la science, je te rejetterai de mon sacerdoce. » C'est très très fort, on le voyait, donc l'importance pour le prêtre de continuer d'étudier et de se nourrir de la science, non seulement la science sacrée, mais la science en général, comme vous allez voir, le pape nous le recommandait. le prêtre doit posséder pleinement la doctrine de la foi et de la morale catholique. Eh bien, ça, on laissera le soin à M. l'abbé Devrient de nous présenter justement vendredi son exposé sur les vertus morales et l'enseignement selon saint Thomas d'Aquin. Et à ce sujet, le pape Pie XII nous dit: on a en outre porté cette loi très sage qu'il faut observer exactement. Les professeurs doivent absolument développer les études de philosophie rationnelle et de théologie et la formation des élèves dans ces disciplines selon la méthode, la doctrine et les principes du docteur angélique et y tenir respectueusement. Ça, c'est le canon 1366, paragraphe 2. Car la sagesse de l'Aquitaine est telle qu'elle ordonne merveilleusement les vérités rationnelles mises en vive lumière sous un principe supérieur d'unité, qu'elle est la plus apte à exposer et à défendre les dogmes de la foi. Elle est telle enfin qu'elle peut efficacement triompher des erreurs de toutes les époques. C'est pourquoi, très cher fils, ayez un cœur plein d'amour et de zèle pour saint Thomas. Appliquez-vous de toutes vos forces à pénétrer sa lumineuse doctrine. Admettez de plein gré tout ce qui la contient sûrement et tout ce qui est justement regardé comme le principal. Alors, M. l'abbé Devrient mettra justement en valeur et en lumière cet enseignement de, selon saint Thomas d'Aquin en ce qui concerne la morale catholique. Je reprends la lecture de l'encyclique de Pie XI. Le prêtre doit savoir cette doctrine de la foi et de la morale catholique, la proposer. Il doit savoir rendre raison des dogmes, des lois, du culte de l'Église dont il est le ministre. Il doit dissiper l'ignorance qui, malgré les progrès de la science profane, enténèbre en matière de religion l'esprit de tant de nos contemporains. Cette science profane qui un temps nuit avec une doctrine soi-disant scientifique que l'on a appelé l'évolution, qui tente à ruiner le principe d'un Dieu créateur de l'univers et qui prouve de façon absolue l'existence de Dieu. Alors on laissera le soin à M. l'abbé Ruzac de nous démonter cette erreur des sciences profanes, soi-disant scientifiques, et M. l'abbé Ruzac vous présentera sa conférence vendredi à 9h30 sur les origines de l'homme. Jamais n'a été si opportun qu'aujourd'hui l'avertissement de Tertullien. Parfois, le seul désir de la vérité est de ne pas être condamné sans être connu. C'est le devoir du prêtre de débarrasser les intelligences des préjugés et des erreurs accumulées par la haine des adversaires. Alors, on va laisser le soin à M. l'abbé Herbach de nous montrer, n'est-ce pas, avec sa conférence de demain sur les origines de la crise de l'Église, quelles sont justement ces erreurs accumulées par les adversaires de... C'est pas celle-là la vôtre? C'est pas fier, là. C'est pas votre conférence? Alors... Ah, c'est laquelle, à votre conférence? C'est l'autre, la deuxième? Allons voir. C'est l'abbé Violette qui va nous parler donc demain, à la place. Et vous, la foi et la littérature dans l'Antiquité. Je vous ai entendu lui parler l'autre jour, là. J'espère qu'il n'a pas oublié. Alors, c'est ça. Alors, un petit changement de programme de dernière minute, mais alors la défense, la foi et la littérature dans l'Antiquité, ça ne permettra de combattre les préjugés et les erreurs accumulées par la haine de nos adversaires. Vous ne manquerez pas certainement de vous servir de cela pour justifier mon introduction. À l'âme moderne qui cherche anxieusement la vérité et doit savoir la montrer avec une sereine franchise, à l'âme encore dans l'incertitude, travaillée par le doute, Le prêtre doit inspirer courage et confiance et la guider avec une tranquille assurance vers le port de la vérité consciemment et fortement embrassée. Alors ça, c'est M. l'abbé Bellil qui va, par son étude sur les passions, nous montrer comment le prêtre, justement, est un bon conseiller des âmes et apprendre aux hommes et à maîtriser leurs passions pour qu'ils soient leur inspirés dans l'adversité et dans les tentations, courage et confiance, et les guider au travers de cette révolte des passions dans une tranquille assurance vers le port du salut. Voyez-vous. Ça, c'est tout le rôle de la direction spirituelle et du prêtre qui doit connaître, évidemment, et sa théologie morale et la psychologie et l'étude des passions. Donc, nous aurons une conférence à ce sujet très intéressante, sûrement de M. l'abbé Bellil, mercredi matin à 9h30. Aux assauts de l'erreur opiniâtre et obstinée, le prêtre doit savoir opposer une résistance énergique et vigoureuse, mais tout à la fois calme et solide. Quel est le confrère qui représente, n'est-ce pas, à la fois ce calme et cette solidité dans la doctrine? Il se cache. Sinon, M. l'abbé Castel, qui va, n'est-ce pas, qui va démonter, n'est-ce pas, ces assauts de cette erreur opiniâtre et obstinée de cette secte de Sainte Jovite, avec sa conférence de mercredi à 19h30. Donc, voilà ce que sait faire le prêtre, avec une résistance énergique et vigoureuse, tout à la fois calme et solide, démonter, n'est-ce pas, les adversaires de la vérité et de la Sainte Église qui perturbent, secte qui d'ailleurs, c'est une conférence très d'actualité puisqu'elle perturbe nombreux de nos fidèles. Tant ici au Québec, nous avons perdu des fidèles, et aussi beaucoup en Ontario, particulièrement à Toronto et dans notre petite paroisse de Sainte d'Aurélia, où nous avons perdu plusieurs familles à cause de cette secte de Sainte Jovite. Il est donc nécessaire, vénérable frère, que le prêtre, même au milieu des occupations pressantes de son saint ministère, et pour bien s'acquitter de celui-ci, continue l'étude sérieuse et profonde des disciplines théologiques. Et ça, c'est donc la recommandation expresse de notre supérieur général qui demande que tous les prêtres de la fraternité continuent d'étudier tous les jours, malgré les charges pressantes du ministère. Qu'il ajoute au bagage suffisant de science qu'il aura emporté du séminaire une érudition sacrée toujours plus riche, qui le rende toujours plus apte à la sainte prédication et à la direction des âmes. Alors, Monsieur l'abbé Brandler nous en donnera une démonstration en dirigeant les âmes par l'imitation de Jésus-Christ selon saint Ignace d'Antioche, jeudi à 9h30. Oui, ça s'applique exactement, voyez-vous, à cette adresse, à ces recommandations du pape Pie XI pour les prêtres. En outre, pour l'honneur de la fonction qu'il exerce et pour s'attirer comme il convient la confiance et l'estime du peuple qui sont si utiles pour l'efficacité de son œuvre pastorale, le prêtre doit posséder ce patrimoine de connaissances, même si elles ne se rapportent pas strictement aux sciences sacrées qui sont communes aux hommes cultivés de son temps, c'est-à-dire qu'il devra être sainement moderne à l'exemple de l'Église catholique qui embrasse tous les temps et tous les milieux. Alors on demandera à M. l'abbé Violette de nous parler de l'Australie, de son ministère qui embrasse tous les temps et toutes les circonstances du ministère sacerdotal, même dans ces lointains pays de mission pour la fraternité. Et il s'y adapte, bénit et favorise toutes les saines initiatives. Alors on verra toutes les initiatives de M. l'abbé Violette dans son ministère en Australie par la conférence qui remplace celle sur la foi et les origines de la crise de l'Église, pardon, de M. l'abbé Herbach. Nous avons fait aussi appel à de nos amis qui ne sont pas dans le sacerdoce, laïcs, monsieur Jean-Claude Dupuis, monsieur Junot et monsieur Messier, qui vont nous parler de l'histoire et des méfaits de la musique rock and roll. Alors, pour présenter ces conférences, je ferai appel cette fois-ci à un discours du pape Pie XII, toujours d'ailleurs sur le sacerdoce. Mais là, on demande à nos amis laïcs, la participation des laïcs dans l'Église, là, de nous prêter main forte pour prêcher la bonne doctrine. Que les sciences historiques dans les écoles ne se bornent pas seulement aux questions critiques et apologétiques, qui ont cependant de l'importance. Et si elles ont de l'importance, eh bien alors nous demanderons à M. Messier de nous faire un petit retour sur l'affaire Galilée. N'est-ce pas ? Il présentera sa conférence jeudi à 19h30. Mais qu'elle vise surtout à montrer la vie active de l'Église, ses travaux, ses souffrances, les moyens adaptés pour répondre avec succès à sa vocation, ses œuvres de charité, les périls qui la menacent, les obstacles à sa prospérité, les conditions des traités avantageux et défavorables entre l'Église et les États, les concessions à faire à l'État, les circonstances où l'Église ne doit céder en rien. Et un jugement mesuré sur la condition de l'Église et un amour sincère envers elle, voilà enfin ce que la classe d'histoire ecclésiastique doit donner à l'étudiant. Eh bien, nous demanderons à M. Jean-Claude Dupuis de nous donner ce jugement mesuré sur la condition de l'Église et cet amour sincère envers elle dans une période très importante de son histoire au Canada, le 19e siècle. Et M. Dupuis nous présentera les principaux évêques canadiens au 19e siècle. Et enfin, M. Junot, lui, nous parlera des méfaits de cette musique perverse qui s'appelle rock and roll, qui est une véritable drogue et un moyen satanique de destruction des esprits et des intelligences et de la moralité chez nos jeunes, sous prétexte de liberté dans l'expression de l'art, où les artistes seraient supposés n'avoir aucune contrainte, aucune barrière, aucune référence dans l'expression de leur art, aucune référence au beau ou au vrai. Je ferai appel à l'encyclique Musice Sacrae Disciplina du pape Pie XII. Ils disent en effet que l'inspiration qui mène l'artiste est libre et qu'il n'est pas permis de la soumettre à des lois et normes étrangères à l'art, religieuses ou morales, sans léser gravement la dignité de l'art et entraver, pour ainsi dire, et enchaîner l'action de l'artiste mue par une inspiration sacrée. De pareils arguments soulèvent une question assurément grave et difficile qui concerne tout art et tout artiste. On ne peut la résoudre à l'aide de raisonnements tirés de l'art et de l'esthétique, mais on doit au contraire l'examiner à la lumière du principe suprême de la fin dernière, règle sacrée et inviolable de tout homme et de toute action humaine, et donc de l'art en particulier. L'homme, en effet, est orienté et ordonné vers sa fin dernière qui est Dieu. En vertu d'une loi absolue et nécessaire fondée sur la nature et l'infinie perfection de Dieu, avec une telle force que Dieu lui-même ne pourrait exempter qui que ce soit. Par cette loi éternelle et immuable, il est établi que l'homme et toutes ses actions doivent, à la louange et à la gloire du Créateur, manifester l'infinie perfection de Dieu et l'imiter autant que possible. On verra comment cette musique est aux antipodes de ces principes et de cette direction vers laquelle le pape rappelle que tout artiste doit diriger son œuvre. C'est pourquoi l'homme destiné par sa nature à atteindre cette fin suprême doit se conformer dans ses actions à ce divin archétype et orienter dans cette direction toutes les facultés de l'âme et du corps en les ordonnant comme il convient entre elles et en les pliant dûment vers cette fin à atteindre. Alors que là, il s'agit d'une libération de toute contrainte, c'est une révolution par rapport à tous ces principes d'ordre et de hiérarchie des valeurs qui doivent toutes nous faire tendre vers notre fin dernière, vers Dieu. Aussi doit-on juger l'art et ses œuvres suivant leur conformité et harmonie avec la fin dernière de l'homme. Donc, on pourra juger du rock'n'roll en fonction de son harmonie à sa fin dernière. Car l'art doit certainement être compté parmi les plus nobles manifestations du genre humain, du génie humain, puisqu'il a pour objet d'exprimer, au moyen d'œuvres humaines, l'infinie beauté de Dieu, dont il doit être, pour ainsi dire, refléter l'image. Alors on laissera à Monsieur Junot le soin de nous montrer comment cette musique non seulement ne reflète pas l'image de Dieu, mais reflète tout au contraire l'image de Satan, donc qui est l'inspirateur de cette musique. Alors je remercie donc à l'avance tous nos chers confrères et chers conférenciers qui ont bien voulu prêter leur concours pour la réalisation de cette session d'études, et j'espère que ces réunions sacerdotales et de nos fidèles pourra continuer, et que cette initiative va grandir et se développer, comme nous le rappelait Saint Pilis, pour tout d'abord nous par l'étude le bien de la sainteté de notre vocation et pour le plus grand bien des fidèles. Alors je vous souhaite une bonne semaine et une bonne session d'études et encore un grand merci à toutes, à tous.
Tout d'abord, je voudrais vous dire que un meilleur titre pour cette conférence serait l'éducation des passions selon saint Thomas d'Aquin, puisque c'est à peu près que lui que j'ai consulté durant le peu d'études que j'ai eu l'occasion de faire à ce sujet. Donc je ne veux pas être une autorité dans cette matière, mais simplement donner une petite piste de réflexion. Et j'ai trouvé hier à la bibliothèque un livre assez intéressant à ce sujet, c'est des conférences du Père Janvier. Il a fait toute une série de conférences sur les passions à Notre-Dame de Paris, c'est au début du siècle, en 1905. Et qui sont très intéressantes, qui vont vous donner, si vous êtes plus intéressé à aller plus dans les détails, qui vont vous donner plus d'applications sur ce que je vais dire. Tout d'abord, il faut voir un peu quelle est la situation aujourd'hui et quelle a été toujours la situation, en fait, dans l'histoire, en considérant les passions, l'éducation des passions d'une manière pratique. Parce qu'il y a toujours eu deux écoles principales qui ont eu le haut du pavé, une fois de temps en temps, ça, en variance. Aujourd'hui, c'est surtout la position libérale, on pourrait appeler, qui est en fait une nouvelle apparition de l'épicurisme des temps grecs, qui considère que, à la suite de Rousseau, l'homme est bon entièrement et sans arrière-pensée, et donc que tout ce qui promeut l'épanouissement de la nature humaine, telle qu'elle est bon. Et donc le résultat de cette approche de l'éducation sera de laisser les passions s'exprimer sans aucun frein, sans aucune borne, ce qui nous donne les résultats qu'on a aujourd'hui, donc cette révolte de la musique rock, la violence qui est très présente dans notre monde moderne, la libération sexuelle, la libération des sens, et tout ça, c'est le résultat de cette éducation qui n'est pas nouvelle. Ce principe d'éducation a commencé d'être appliqué au début du 19e siècle, d'une manière très générale, et donc on arrive au résultat. L'évolution, la théorie de l'évolution est aussi un peu pour quelque chose dans cette attitude, parce que, avec l'évolution, on considère l'homme comme étant un animal. sans âme spirituelle. C'est le résultat d'une évolution lente et progressive, et donc ce n'est qu'une grosse usine chimique, en fait. Si on considère bien, si on considère les états de l'âme de l'homme comme étant des réactions chimiques, quand on nie la spiritualité de l'âme, et donc on ne peut rien y faire, quoi. Les réactions chimiques, on ne peut rien y changer. Quand elles arrivent, et donc, si on a un mouvement de passion qui arrive, ben, c'est une réaction chimique et il n'y a rien à y faire. Cette position est dangereuse, vous pouvez bien vous en rendre compte, qui laisse le frein, qui ravale l'homme au rang des animaux, en fait, tout en ne laissant pas à l'homme ce que les animaux ont pour régler leurs passions. Les animaux ont des passions, mais ils ont leur instinct qui leur permet de régler les passions automatiquement. L'homme a sa raison. Et libérer les passions de la raison, c'est mettre les passions sans aucune régulation. Il y a une réaction à cela qui est, dans un sens presque aussi mauvaise, qui est la réaction des stoïciens, la réaction des jansénistes, la réaction de beaucoup de protestants et la réaction de certaines personnes bien pensantes aussi, qui dénient aux passions toute bonté. Les passions sont quelque chose de mauvais en soi, qui doit être réprimé, tué, anéanti. Il faut exprimer aucune passion, aucun amour, aucune haine, aucune colère, et ainsi de suite. Cette réaction aussi est mauvaise parce qu'elle nie la nature humaine. Nous avons des passions, le bon Dieu nous en a donné, il nous les a données pour les utiliser. Comme je le marque là, c'est un outil pour la volonté, comme nous le verrons. Et donc, de dénier les passions peut avoir des effets très dangereux. Et on le voit quelquefois dans ces systèmes d'éducation très stricts, où les passions n'ont aucune expression. Les enfants, à l'âge où les passions commencent à se développer, s'ébullitionner, eh bien, s'ils deviennent libres, se révoltent complètement contre l'éducation qu'ils ont reçue et ne garderont rien. Donc, c'est un des dangers. Un autre danger aussi, c'est de faire des gens qui n'ont aucune conviction, parce que les passions sont là pour aider la volonté. Qu'est-ce qu'une passion? Après cette introduction, qu'est-ce que la passion? Saint Thomas en parle en grand détail. Il utilise de la question 22 à la question 48 de la prima secundae, donc la partie qui concerne la morale en général. Il va en parler donc des passions en général et des passions chacune en particulier durant 26 questions. Et il a une petite définition dans une de ses questions. Il dit « Les passions sont des affections. Les passions, ce sont des mouvements qui changent l'âme et le corps devant un bien ou un mal. C'est une réaction qui produit un changement dans le corps, surtout dans le cœur, mais aussi dans l'âme. Et enfin, à la réaction en vue quand on voit un objet, en face d'un objet qui est bien ou mal. » Peut-être pour comprendre cela, il faudrait regarder rapidement, ce n'est pas le sujet de ma conférence, donc je vais le faire très rapidement, comment on agit. Une action faite par l'homme est faite par sa volonté. C'est la volonté qui décide de faire quelque chose, même si après ça les membres ne le font pas. Donc je m'arrête au niveau de la volonté. La volonté reçoit par l'intelligence un bien à désirer ou un mal à éviter, et l'intelligence lui montre ceci est bon, ceci est vrai, ceci est bien, et la volonté se décide à le rechercher. Pour l'aider, la volonté a les vertus ou les vices et les passions qui se trouvent donc au niveau de la volonté. Au niveau de l'intelligence, c'est les sens qui présentent les objets à l'intelligence, qui, comme ça, interagit avec ce qui est autour d'elle, l'imagination et la mémoire qui coordonnent et analysent les données reçues par les sens. Donc, les passions se trouvent au niveau de la volonté. Saint Thomas dit de la volonté sensible, de l'affection sensible qui va donc être aidée par les patients à se décider à agir en vue de quelque chose. Quels sont ces passions, ces différents mouvements? Il y a plusieurs classifications. La classification qui est la plus commune, c'est la division en 11. Saint Thomas parle aussi d'une division en 4. Cette division considère deux points de vue. On considère quel est l'objet de la passion et si cet objet est un bien ou un mal. Et donc, on aura toutes les différentes passions. Donc, si l'objet de la passion qui est devant nous est simplement considéré, c'est-à-dire on le voit tel quel, sans aucun accident, si c'est un bien, c'est la passion d'amour qui se porte à cet objet. Si c'est un mal, c'est la passion de haine qui n'en veut pas. Si maintenant ce bien, cet objet est considéré comme étant possible, comme pouvant nous arriver, c'est on ne l'a pas, on ne le considère pas simplement en lui-même, mais on le considère comme quelque chose qu'on pourrait avoir. Si c'est un bien, c'est le désir. On veut ce bien. On ne l'a pas encore, mais on le désire. Si c'est un mal, on prévoit un mal qui peut nous arriver, eh bien, on essaie de le fuir, ou bien on a ce dégoût, cette envie de ne pas l'avoir, quoi. Si maintenant on possède cet objet de la passion, on l'a avec nous. Si c'est un bien, c'est la joie. Quand on a ce qu'on aime, on est joyeux. Et si c'est un mal, on est triste. Maintenant, il y a d'autres fois où on regarde l'objet de la passion d'une manière, c'est comment l'atteindre ou comment l'éviter. Si on voit que c'est difficile pour l'avoir, on veut l'avoir, on le désire, mais c'est difficile. Si c'est un bien, ce sera l'espoir qui nous pousse par-dessus ce qui est difficile pour atteindre ce bien. Si c'est un mal, c'est l'audace qui nous pousse à attaquer ce mal qui est là en face de nous, difficile à éviter, mais avec l'audace, on l'attaque et on en vient à bout. Si maintenant l'intelligence voit ce bien ou ce mal comme impossible à avoir ou impossible à éviter, eh bien, si c'est un bien, c'est le désespoir. On n'espère plus en ce bien, on ne veut plus l'avoir parce qu'on se dit que ce n'est pas possible de l'avoir. Et si c'est un mal, c'est la crainte, c'est la peur, la crainte qui nous paralyse. Et finalement, il y a une passion qui est toute seule par elle-même, qui n'a pas de contraire. C'est la passion de colère qui se trouve en présence d'un mal présent à détruire. C'est la réaction qui fait suite à la tristesse, en fait. C'est quand on est en présence du mal et qu'on veut le quitter, on se met en colère. Bon, c'est très facile à faire des applications pratiques. Si vous avez des enfants qui nous énervent à la maison, par exemple, on veut se débarrasser de ce mal-là. Ils font du bruit, on veut s'en débarrasser. Alors, la réaction, c'est de se mettre en colère, faire plus de bruit, puis, comme ça, le silence arrive et on se repose. Réaction de la passion. Donc, ce sont les principales passions, enfin, les divisions des passions que saint Thomas nous donne. Saint Thomas aussi parle d'une division en quatre, qui ne retient en fait que la joie, la tristesse, la crainte et l'espoir. Cette division se rapporte au temps, parce que la joie et la tristesse, c'est un bien présent, et l'espoir et la crainte, c'est un objet futur. Et toutes les autres passions, après ça, s'y ramènent. Mais de fait, la principale passion qui est la source de toutes les autres est l'amour. C'est l'amour qui est la passion principale. Qui est à distinguer cet amour, bien entendu, de la vertu de charité. Ce n'est pas exactement la même chose. L'amour-passion, c'est cette passion qui produit un changement dans le corps. Bon, on voit quelqu'un qu'on aime, c'est des palpitations et tout ça. Bon, c'est ça l'amour, passion. Ces passions peuvent être bonnes ou mauvaises. En soi, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est un outil. C'est un outil que la volonté a pour se mouvoir. La passion, comme je dis, est un changement dans le corps et dans l'âme que la volonté utilise ou devrait utiliser pour se mouvoir plus facilement, pour rendre plus facile l'action. Par exemple, l'action d'atteindre un objet que l'on aime ou l'action d'éviter quelque chose que l'on haït. Eh bien, la volonté va utiliser les passions pour justement faciliter la tâche. Ce qui va rendre une passion bonne ou mauvaise, parce qu'il n'existe pas de passion neutre. En soi, la passion n'est ni bonne ni mauvaise, mais en réalité, toute passion est soit bonne, soit mauvaise. Parce que toute passion se rapporte à un objet particulier. Et c'est cet objet particulier qui va la rendre bonne ou mauvaise. Si on aime ce qui est réellement bien, la passion est bonne. Si on aime ce qui paraît bien mais n'est pas bien, cet amour est mauvais. Si on haït ce qui est mal, c'est bien. Si on haït ce qu'on croit mal mais qui en fait est un bien, c'est un mal. Donc la passion sera toujours bonne ou mauvaise selon l'objet de la passion. Maintenant, le prochain sujet que je voudrais aborder, c'est les passions et le péché originel. Parce que cela a une importance capitale pour l'éducation des passions. Tout ce que j'ai dit maintenant concerne les passions dans l'état naturel de l'homme. Si on considère l'homme dans sa nature abstraite. Mais concrètement, l'homme a été blessé par le péché originel. Et donc, l'éducation qui regarde l'homme concret à éduquer doit considérer le péché originel dans l'éducation des passions. Dans l'état de nature parfaite, les passions, comme je le dis, sont un outil pour la volonté, pour aider la volonté, et sont sous le contrôle de l'intelligence et de la volonté. C'est-à-dire que la volonté reçoit un bien présenté par l'intelligence, le veut, et à ce moment-là utilise les passions pour s'y diriger. Malheureusement, après le péché, comme dit saint Thomas aussi dans la question du péché, après le péché, l'homme s'est révolté contre Dieu. L'intelligence et la volonté se sont révoltées contre Dieu, et donc les passions inférieures, les puissances inférieures de l'homme se sont révoltées contre l'intelligence et la volonté. Et donc maintenant, les passions sont présentes en nous, mais ne sont pas contrôlées par la volonté. Les passions sont en état de révolte contre la volonté et peuvent se déclencher sans la volonté. Il peut y avoir un objet qui se présente en face de nous et une passion pour cet objet ou contre cet objet va avoir lieu sans que la volonté fasse quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement involontaire les actions qu'on fera à ce sujet, mais la passion va se déclarer sans l'assentiment de la volonté ou contre la volonté. C'est un peu cette volonté entre guillemets humaine dont parle saint Paul quand il dit « je fais ce que je veux, ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je voudrais faire ». Et c'est parce que cette volonté des passions, ce mouvement des passions est quelquefois tellement fort que même la volonté ne peut pas y résister dans ce cas-là et la volonté se soumet au désir des passions. C'est un péché si les passions sont mauvaises. Mais ça montre cet état de dépendance des passions, de la volonté sous les passions. Les passions, maintenant, ont un certain pouvoir de révolte sur la volonté. La volonté peut les contrôler, par contre. Et ce sera là l'objet de l'éducation des passions, l'objet de l'éducation de l'homme, sera de remettre tout cela en ordre. C'est ça l'objet de l'éducation, et de remettre l'ordre dans l'homme pour que l'homme puisse agir en tant qu'homme et non pas en tant qu'animal. Et donc dans l'éducation, et c'est la dernière partie que je voudrais aborder, dans l'éducation, il y aura nécessairement une part d'éducation des passions. C'est nécessaire. C'est nécessaire que nous éduquions les passions parce qu'elles font partie de notre nature humaine. Comme je le disais au début, les ignorer est une erreur, parce qu'elles vont de toute façon exister. Les ignorer est une erreur et c'est nous priver d'un outil. Tous les saints étaient passionnés. Tous les saints avaient de grandes passions, mais ils les contrôlaient. Ils avaient des passions pour le bien et des passions pour le mal. Ils aimaient le bien et ils haïssaient le mal. Et c'est très important de voir toutes les passions peuvent être utiles. Ici, le Père Janvier a une petite phrase. Nous aimerons car celui qui n'aime pas est un misérable, dit Saint Augustin. Demeure dans la mort, enseignait Saint Jean. Nous haïrons le mal car la mesure de la haine du mal est la mesure de l'amour du bien. Nous goûterons des joies car quiconque ne trouve pas quelque bonheur est incapable de vivre. Nous soumettrons à la tristesse, car quiconque n'aperçoit pas le côté fragile des choses s'oublie comme s'il devait trouver ici-bas la béatitude totale. Nous donnerons une place à l'espoir, à l'audace, à la colère, car nul n'agirait s'il n'était excité et soutenu par l'espoir. Nul n'agirait avec vigueur si la colère et l'audace ne venaient l'armer contre l'obstacle. Nous craindrons et nous désespérons, car tantôt ces deux passions nous feront découvrir en nous des énergies extrêmes, tantôt elles empêcheront des tentatives imprudentes destinées à échouer. En fait, c'est une citation de Saint-Augustin, tout ce texte que le Père Janvier nous donne. Les passions sont nécessaires, et donc il faut apprendre à s'en servir. Donc le but de l'éducation des passions est d'en faire un instrument de la volonté. Ce n'est pas de les détruire, ce n'est pas de les développer outre mesure, c'est d'en faire un instrument, donc de les modérer, donc de les contrôler. Et c'est là le sens du mot de mortification des passions. Mortification des passions, c'est sûr, implique un sens de mort. Mais il faut le comprendre dans le sens qu'il faut effectivement éliminer les passions pour les objets mauvais. Les passions mauvaises doivent être éliminées. Mais les passions bonnes doivent être développées. Et donc, le but des passions, c'est vraiment de s'en servir pour la plus grande gloire de Dieu, en faire un instrument de la volonté qui aidera la volonté dans ses actions naturelles et surnaturelles. Parce que les passions sont quelque chose du corps, c'est quelque chose de sensible, mais tout dans l'homme doit se diriger vers la surnature, la grâce. Et donc, ces passions doivent être utilisées soumise à l'intelligence qui est éclairée par la foi. Quels seront donc les moyens pour éduquer ces passions, pour les contrôler? Le premier moyen, c'est les vertus. Les vertus qui sont des bonnes habitudes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Une vertu, c'est une bonne habitude. Certaines sont infuses, d'autres sont acquises. L'éducation n'a pas à s'occuper des vertus infuses, elle a simplement à les maintenir, mais elles sont déjà là, c'est le bon Dieu qui les a données par le baptême, par les sacrements, par la grâce. Mais l'éducation a développé les vertus acquises. C'est là le but de l'éducation, et c'est pour ça que l'éducation des jeunes enfants est très importante, parce que c'est à cet âge-là qu'ils développent les habitudes. Et donc, s'ils ont des bonnes habitudes, ils auront des vertus. S'ils ont des mauvaises habitudes, ils auront des vices. Et les actes, les vertus rendant facile une action bonne facilitent l'usage des passions. Parce qu'elles vont nécessairement faciliter le pouvoir de la volonté sur les passions. Si un homme est vertueux, sa volonté est plus forte contre les passions mauvaises. Sa volonté pourra dire à la passion « Non, cet objet est mauvais » et éliminer la passion plus facilement. Donc, c'est vraiment cette éducation des vertus. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne suis pas un éducateur chevronné, donc je ne veux pas donner de détails pratiques, je me tiens au principe. C'est vraiment les vertus qui vont aider à contrôler les passions. Par exemple, la vertu de tempérance, qui cherche le milieu dans les biens, l'utilisation des biens naturels, bon, aidera à contrôler les passions du manger et du boire. Les passions pour le gâteau au chocolat sont contrôlées par la vertu de tempérance. et ainsi de suite. La vertu de chasteté va aider à éviter à l'amour de s'enflammer pour des beautés périssables ou mauvaises. Donc, les vertus sont le premier moyen à utiliser dans l'éducation pour contrôler les passions, enseigner les vertus. Et c'est sûr que l'éducation des vertus commence au plus jeune âge. Ce sont des bonnes habitudes, les vertus acquises. Donc, c'est en faisant répéter aux enfants les actions que l'on les forme à la vertu. Au début, c'est difficile. La vertu rend facile les actions, mais quand on ne l'a pas, les actions sont difficiles à faire. Donc, les enfants vont avoir de la misère au début à les faire, mais l'éducation doit leur rendre facile cette pratique du bien. Le deuxième instrument est l'usage de la réflexion, l'usage de l'intelligence. Mettre l'intelligence à sa place. C'est l'intelligence qui illumine notre âme, qui lui présente les objets à désirer et à rechercher. Si vous prêtez attention au titre des exercices spirituels de Saint Ignace, il est dit que ces exercices ont pour but de régler sa vie sans se déterminer par aucune affection désordonnée, c'est-à-dire par aucune passion désordonnée, ou passion qui est avant la volonté, antécédente à la volonté. C'est ces passions qui sont désordonnées, qui ne sont pas contrôlées par la volonté. Saint Ignace, dans cet exercice spirituel, veut nous aider à contrôler ces passions. C'est le but des exercices. Qui est le bon, qui sera la sainteté, en fait. Si on contrôle ses passions, on remet notre nature humaine en ordre, l'intelligence, la volonté au-dessus des passions, ce qui rend beaucoup plus facile de se mettre complètement en ordre au-dessous de Dieu, et donc d'être saint. Sainteté, c'est l'ordre avec Dieu. Et quels sont les moyens que Saint Ignace emploie pour aider l'âme à se régler sans aucune affection désordonnée? Méditation et réflexion qui meuvent la volonté. C'est par la méditation, c'est par la réflexion que Saint Ignace meut la volonté, c'est son but principal, de mouvoir la volonté, à se tourner vers notre Seigneur, à juger les choses surnaturellement, sans se laisser influencer par des désirs de passion. Un exemple très clair à ce sujet, c'est les règles pour l'élection que Saint Ignace donne. Quand il montre qu'il nous demande de regarder donc un objet à décider pour éviter que ce soit une passion d'amour ou de haine qui nous fasse décider sur cet objet, il nous demande de regarder tout ce qui est favorable au salut dans ce choix d'une action à faire ou d'un état de vie, tout ce qui est défavorable au salut, tout ce qui est favorable si on ne le fait pas, tout ce qui est défavorable si on ne le fait pas, pour qu'ensuite la raison puisse étudier ces quatre colonnes et arriver à une conclusion raisonnable qui n'est pas influencée par la passion. C'est sûr que cette conclusion raisonnable est influencée par la grâce et aidée par la grâce, mais c'est une conclusion de la raison et non pas une conclusion de la passion. Donc, c'est vraiment un outil très important que la réflexion, que la méditation, que l'étude pour contrôler ses passions, pour vraiment voir l'objet. Quel est le vrai bien? C'est là pour mouvoir la volonté vers ce bien. Mais il faut se rappeler après ça que contrôler les passions n'est pas les supprimer. Et donc, quand la volonté a vu un bien par l'aide de la raison, c'est à ce moment-là qu'elle doit enclencher les passions. Les passions peuvent être et doivent être utilisées à ce moment-là. Dès qu'on voit quelque chose est bien et il faut l'atteindre, il faut tout utiliser. L'amour, le désir, la colère, bon, colère en la contrôlant, bien entendu, mais toutes ces passions doivent être utilisées pour atteindre ce bien. Amour du bien, haine du péché sont quelque chose de très important. Et le monde d'aujourd'hui, par exemple, est contre la haine. On entend toujours parler d'être contre la haine. C'est une erreur. La haine de quelque chose qui est bien est mauvaise. Et donc, haïr son prochain, par exemple, est un mal. Parce que le prochain est créé à l'image de Dieu, on ne doit pas l'haïr en tant que prochain. Mais haïr le péché est quelque chose d'excellent. Et plus la haine du péché est violente, dans un sens, elle est forte, plus il est difficile de commettre un péché. parce qu'on ne fait pas ce qu'on a eu. Et c'est justement ce fait aujourd'hui de voir essayer d'être toujours très bon et gentil avec tout, avec le bien et le mal, eh bien, rend le péché quasiment bien. Et finalement, le dernier moyen pour aider à l'éducation des passions est, bien sûr, la prière et les sacrements, qui sont très importants. Moyens surnaturels, cette fois, qui ne sont pas dans la nature humaine, mais qui sont venant de Dieu directement. Et donc, qui aide à contrôler les passions, parce que le péché est quelque chose de surnaturel. Et donc, nous avons besoin de moyens surnaturels aussi pour contrôler les passions. Mais ça, l'abbé Rousseau en a parlé, Monsieur Junot en a parlé hier aussi, c'est quelque chose dont nous avons déjà vu. L'utilisation des sacrements est importante pour éduquer, pour contrôler les passions. Et donc, en conclusion, il faut se rappeler ça, les passions, donc, sont un outil. Et donc, le but de l'éducation n'est pas de supprimer l'outil, mais d'apprendre à l'utiliser. De lire les instructions et d'apprendre à utiliser l'outil de la manière la plus adéquate pour rendre à Dieu le plus de gloire possible et sauver le plus d'âmes possible. Donc, l'éducation ne doit pas rester au point de vue philosophique et voir les passions en abstract, abstraitement, sans considérer le péché originel. Les passions sont viciées par le péché originel et donc doivent être contrôlées par l'utilisation des vertus de la prière et de la réflexion. Je ne sais pas s'il y aurait quelques questions. Oui. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'il faut qu'on peut haïr les amis de l'Église, c'est ce que vous voulez dire? Oui, bon, l'horreur n'est pas nécessairement la haine, ça c'est, mais je veux dire, c'est en tant qu'ennemi, oui, je veux dire, un mal peut être haï, donc l'ennemi en soi peut être haï, mais en tant que c'est un homme créé par Dieu à son image et à la ressemblance, on ne peut pas l'haïr. Je veux dire, les ennemis de l'Église en tant qu'hommes, on doit prier pour eux pour qu'ils se sauvent, mais on ne doit pas, et pour ça on ne doit pas les haïr en leur voulant du mal. Mais on doit haïr le mal qu'ils font, oui. C'est pas facile, mais c'est... Oui? Ben, c'est nécessaire. C'est nécessaire, ça c'est sûr. C'est nécessaire de leur montrer le courage, par exemple, ou l'espoir. Bon, toutes ces passions sont l'espoir en Dieu qui fait... de toute façon, si vous leur montrez une vie de saint, vous allez leur montrer l'usage de bonnes passions, je veux dire. Il suffit de voir Sainte Marie-Madeleine. Bon, elle était passionnée pour notre Seigneur. Son amour était vraiment passionné. C'est visible. Puis les saints qui vont se porter à la défense de l'Église, ou bien qui vont... Bon, saint Thomas d'Aquin qui prend le morceau de feu, le morceau de bois en feu en face de la prostituée qui vient le voir. Bon, c'est une passion de colère, ça. Oui? Un amour déréglé, c'est un amour... C'est soit un amour qui, justement, met un bien à l'endroit où il ne doit pas être. Par exemple, si on aimait sa patrie plus que Dieu, dans ce cas-là, aimer sa patrie n'est pas mauvais, mais l'aimer plus que Dieu est mauvais. Là, il est déréglé en ce moment. Ou soit, c'est aimer quelque chose qui ne doit pas être aimé, aimer quelque chose qui est mal. Par exemple. c'est un lien, disons, je pense que le mot est sémantique dans l'origine des mots, je veux dire, passion, le mot passion vient de pâtir, de souffrir, je veux dire. La passion de notre Seigneur, c'est quand il a souffert, et les passions, comme je dis, impliquent un changement dans le corps, et donc un pâtir, c'est le mot latin, quoi, je veux dire, pour changement, pour mouvement. Et donc, les passions, je veux dire, impliquent un changement. Quand on est passionné, le cœur va battre plus fort, on va suer, ou des choses comme ça, c'est normal. C'est une réaction de la passion. Et donc, il y a un genre de souffrance, si vous voulez, entre guillemets, c'est pas vraiment toujours une souffrance, comme la joie, on ne souffre pas, mais on pâtit quand même au moment de la passion. C'est-à-dire, on reçoit quelque chose, on reçoit un changement. C'est là, c'est l'origine. Les mots, je veux dire, viennent de la même origine.